mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 18 juin. Aujourd'hui, on va prendre des nouvelles de la maternité de Ganges, en tout cas du collectif Maternité à défendre, qui a publié un rapport là sur les derniers mois, on va dire, et l'actualité autour des inquiétudes sur la réouverture ou pas d'une maternité à Ganges. On va parler du planning familial de l'Hérault aussi, qui est en grand danger et qui appelait un rassemblement ce mercredi, sur la place de la Comédie à Montpellier. Et puis des nouveautés un petit peu dans les lois européennes, hein, la fameuse loi qui autorise les États à renvoyer des migrants dans des pays tiers sous la forme de hubs, des camps donc exportés, hein, vient d'être passée au Parlement, ainsi que l'interdiction des actions pour défendre la Palestine aux États-Unis, en tout cas celles qui seront labellisées du groupe Palestine Action. On fera un petit tour aussi sur les conséquences et les enjeux autour des vagues de chaleur. Et enfin, une cocasse histoire d'amende faite par une voiture fantôme. Dans les colonnes d'Objectif Gare, donc tout d'abord, on y apprend, on peut lire justement un entretien avec le collectif Maternité à défendre, hein, qui œuvre depuis quelques années sur Ganges et le secteur pour obtenir la réouverture d'un service de maternité et d'obstétrique dans la future clinique qui est en train de se voir construite à l'entrée de Ganges. C'est ainsi que c'est titré, donc Maternité à défendre tente de forcer le destin pour la nouvelle clinique. La nouvelle polyclinique de Ganges est en train de sortir de terre, hein, au rond-point là, de la route de Sumène au-dessus de Ganges. Elle est toujours censée accueillir une maternité, mais le collectif Maternité à défendre dont vient de sortir un rapport retraçant les épisodes depuis la fermeture du service, ou en fait sa suspension, hein, selon les termes officiels, faute de médecins suffisants, c'était en décembre 2022. Le collectif dénonce lui, pour sa part, le manque d'entrain qu'il observe de la part du groupe Cap Santé, propriétaire de la clinique, à trouver justement le personnel nécessaire à la maternité. Il s'inquiète aussi de l'argent public qui a été donné pour ce projet en l'absence de certitude sur la réalité d'une maternité dans l'avenir. Et il souhaite donc, avec ce rapport, secouer un petit peu tout le monde, et notamment que les nouveaux élus s'approprient le sujet autant que ce que le collectif essaye de faire. Impossible de manquer, hein, le chantier qui est en train d'ouvrir à côté de Ganges, là, ça s'est sorti de terre. La nouvelle structure est censée ouvrir fin 2027. Ça avance vite depuis les premiers terrassements du mois de novembre. Et d'ailleurs, c'était confirmé par le président du groupe Cap Santé, Lamine Garbi, le propriétaire de la clinique. La maternité est bien prévue dans les locaux, donc elle fait partie des plans. Ce qui ouvre d'ailleurs droit à une aide publique à la construction dont ils ont bénéficié pour la hauteur de 11 millions d'euros, ce qui fait quand même un tiers du budget d'aide polyclinique, donc un tiers du budget grâce à la maternité. Mais il faudrait voir à ce qu'elle soit bien, en effet, active. C'est en tout cas les chiffres que le collectif Maternité à défendre a avancé. Et Lamine Garbi lui parlait plutôt d'un quart des coûts. Bon, on est entre le tiers et le quart, en tout cas plus de 10 millions d'euros. Pour l'instant, cette future maternité risque de n'être qu'une coquille vide, car aucun praticien n'a été embauché pour l'instant, alors que les délais sont à quoi, 2 ans là. Avec les gynécologues obstétriciens, pédiatres et anesthésistes, c'est au moins 12 personnes qui sont nécessaires pour faire tourner ce service, donc une équipe pour ces nouveaux locaux. Il y a bien un centre périnatal de proximité, le CPP, qui faisait partie des promesses de l'ARS, hein, qui a été signalé seulement depuis la fin 2025 sur le site internet de la clinique. Un centre périnatal de proximité, c'est des services bien plus réduits, hein, une sage-femme et un gynécologue, qui gardent un lien avec les sages-femmes du secteur qui sont elles installées en Libéra, donc pour du suivi, par exemple, de grossesse. Sous la pression de ce collectif, d'ailleurs, la possibilité de prescrire les IVG médicamenteuses, car une maternité, un centre d'obstétrique, ce n'est pas que pour les naissances, ça peut être aussi pour des IVG, donc grâce à la pression, ils ont rajouté cela, mais ça reste quand même une offre très restreinte, sinon il faut aller en ville. D'ailleurs, Isabelle Boisson, qui fait partie du collectif, dénonce une situation chaotique au jour actuel qui génère beaucoup de stress et d'angoisse. On peut notamment noter qu'il y a énormément d'accouchements à domicile, pas forcément dans des conditions voulues ou optimales, et aussi tout ce qui est accouchement en urgence, à savoir dans la voiture, sur le trajet, avec ou sans pompiers selon les cas, s'ils ont eu le temps d'arriver. Et tout cela est très difficile à compter, souvent du fait que les familles restent discrètes sur ça, ou alors que les mairies du territoire, des fois, ne font pas, ne répondent pas aux demandes de recensement de la part du collectif Maternité à défendre. Heureusement, pour l'instant, la majorité des accouchements, c'est bien fini. Et ça va à Montpellier, Nîmes ou Alès, pour les maternités les plus proches, 7 même pour certaines. Mais il y a aussi le cas, par exemple, d'un couple qui a été refusé à l'hôpital de Montpellier dans un premier temps et qui a donc attendu sur le parking plutôt que de rentrer chez lui. Une soignante du Vigan nous a quand même dit qu'il y a une obligation, normalement, en fait, aux urgences de Ganges de prendre en charge ceux qui ne peuvent pas se déplacer, explique encore Isabelle Boisson. Donc voilà, vous voyez que les situations sont un peu chaotiques au cas par cas. En tout cas, il n'y a pas une vraie concertation justement là-dessus des autorités médicales pour aiguiller toutes ces familles dans le besoin. Côté IVG, donc, interruption volontaire de grossesse, la possibilité donc, d'avoir accès aux médicaments, qui s'est donc ouverte depuis peu, s'accompagne par exemple d'une contrainte assez absurde. Il faut, en effet, habiter à moins d'une heure d'un centre hospitalier pour avoir justement cette fameuse pilule, ce qui va à l'encontre des problématiques évoquées. C'est ce qu'explique une autre membre du collectif Maternité à défendre, Priscilla Manzanares. D'ailleurs, le collectif a dû négocier, car auparavant, les femmes ne pouvaient pas être à plus d'une demi-heure de l'hôpital pour pouvoir avoir l'IVG médicamenteuse, mais ça laisse encore une grande colonne, une zone blanche, dans toutes les communautés de communes qui dépendent de la clinique de Ganges, donc une heure de route des hôpitaux de Montpellier. Effectivement, ça, le haut de la vallée Borgne, Saint-André, Les Plantiers, Dourby, Val-d'Égoile, Avès, Bréau-Mars, Rogue ou Montdardier, toute cette zone-là se retrouve donc dans l'impossibilité d'avoir accès à l'IVG médicamenteuse, en tout cas si elles donnent leur vraie adresse. Au début, on était invité dans les comités de suivi, explique cette participante qui fait partie du collectif. Donc dans les comités de suivi au niveau des instances, mairie, chantier, etc. Mais depuis que le chantier a commencé, dit-elle, plus rien. On n'a plus de réponse. Ils ont même dû menacer de s'adresser à la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, pour finalement avoir des pièces, des justificatifs qui sont censés être publics. Et donc, et bien justement, en obtenant ces plans, le collectif a fait un constat. Eh bien, la future maternité, donc telle qu'elle apparaît dans les plans de la polyclinique en construction, n'a pas dans ses salles une salle nature. Or, les labels qui avaient été obtenus dans les anciens locaux, à savoir les labels Maternis et IHAB, qui veut dire Initiative Hôpital Ami des Bébés, donc des labels qui montrent qu'il y a un soin apporté justement à la qualité des accouchements, à la possibilité de faire ça un peu plus souple que dans une grosse structure, on va dire, eh bien ces labels sont liés à la présence de cette salle nature qui n'a pas été pensée dans les futurs plans. Alors que les maires de Mandagou ou de Colignac viennent soutenir d'ailleurs la présentation de ce rapport du collectif, eh bien les participants ont noté que beaucoup des élus ont apporté leur soutien à la réouverture, mais souvent avec juste une banderole affichée en fronton de la mairie, et derrière pas beaucoup d'actions telles qu'on pourrait l'attendre des élus. Depuis les élections, explique-t-elle, on s'est concentré sur les nouvelles équipes municipales, forcément pour les impliquer aussi. Le collectif a fait une liste aux élus sur différents leviers qu'ils pouvaient activer envers des partenaires ou à l'intention des habitants pour faire de l'information, car la population reste largement convaincue de la nécessité d'une maternité sur le territoire. Voilà, et le collectif termine son rapport en joignant l'action positive à leur constat un petit peu amer. On a décidé de faire nous-mêmes, explique Isabelle Boisson, on va mettre des annonces de recrutement au nom du collectif. Voilà, ils vont faire le boulot donc qu'on devrait attendre peut-être de la part de la polyclinique ou peut-être de l'ARS. En tout cas, face à l'absence d'interlocuteurs un petit peu de confiance, ils ont décidé de prendre les choses en main. Le collectif Maternité à défendre a d'ailleurs constaté qu'aucune annonce d'offre d'emploi n'était présente sur le site du groupe Cap Santé pour la clinique de Ganges, ce qui laisse peut-être entrevoir une volonté assez tiède, on va dire, de se bouger pour trouver l'équipe obstétricienne. Seules deux offres sont apparues sur la page Facebook, c'était en octobre 2025, mais toujours rien sur le site du groupe au mois d'avril. Isabelle Boisson continue. On va essayer de joindre les organismes de formation pour diffuser l'annonce. C'est une bouée qu'on lance. Voilà un article que vous pourrez retrouver dans les colonnes, donc je le rappelle, d'Objectif Gare. On part maintenant chez les confrères du Point, le Point avec un G, qui sont plutôt sur le secteur de l'Hérault et de Montpellier, et qui étaient ce mercredi 17 juin sur la place de la Comédie pour un rassemblement initié par le planning familial de l'Hérault. Celui-ci est menacé de fermeture à cause de baisse de financement. Il appelait donc le secteur associatif à ce rassemblement pour alerter sur la situation de son groupe, mais de toutes ses structures de manière générale. Il y a quelques semaines déjà, le planning familial 34, qui est l'un des plus gros de France quand même, hein, avec une quinzaine de salariés, appelait à la solidarité financière pour la deuxième fois en 4 ans. Cette structure, qui a accompagné presque 23 000 personnes en 2025, que ce soit pour des consultations, des informations sur la contraception ou l'IVG, ou bien des situations de violence, l'objectif a atteint son objectif de 20 000 euros, dont il avait besoin pour continuer à perdurer et à payer les salaires. Mais la situation reste tendue. Nos subventions des collectivités baissent ou stagnent, explique Gaël, qui fait partie du conseil d'administration. Mais le coût de l'énergie augmente et l'inflation pèse sur nos finances. Je pense que c'est un constat qu'on peut partager entre toutes les associations. Donc voilà, une des alertes qui a été donnée à ce rassemblement donc sur la place de la Comédie, où environ 150 personnes étaient présentes. La structure donc, du planning familial de l'Hérault voit également une partie de ses activités qui est remise en cause. On en a parlé à ce micro avec des instigateurs de l'antenne viganaise du planning familial. Hein. Selon une enquête menée par le média Street Press en avril 2026, l'Académie de Montpellier a en effet décidé que les interventions pour les EVAR, EVAR ça veut dire éducation à la vie affective et relationnelle, dans le premier degré, donc dans les écoles, seraient désormais assurées uniquement par les personnels de l'éducation nationale. Les associations qui sont agréées, dont font partie le planning familial, se retrouvent donc ainsi exclues de fait des écoles primaires. Dans un contexte comme celui qu'on vit en ce moment avec l'affaire Liana, on voit qu'on a réellement besoin de ce dispositif, pourtant se désole Gaël. Depuis la semaine dernière, l'association tente d'aller à la rencontre de ses financeurs, la ville de Montpellier, le département de l'Hérault, pour exposer ses difficultés. La mairie de Montpellier, par exemple, met à disposition un local et donne chaque année une subvention de 7000 euros, eh bien, ce serait engagé à soutenir la structure. L'hypothèse d'une aide exceptionnelle serait en discussion. Mais explique toujours la représentante du planning familial de l'Hérault, ce qu'ils souhaitent, eux, c'est une convention pluriannuelle pour éviter chaque année de retomber dans les demandes de subvention et la crainte, etc. Et aussi, ils aimeraient bien un local adapté aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Plusieurs autres structures associatives, dans le social ou le médico-social présentes à ce rassemblement évoquaient des situations similaires. Hein. Par exemple, on peut citer le centre de santé communautaire Human Santé, qui lui est menacé de fermeture par un arrêt de financement du dispositif complet de la part de l'État. D'autres salariés de l'association AREA, qui aide eux les personnes sans domicile fixe, qui se sont retrouvés licenciés suite là aussi à l'arrêt des financements accordés par l'État. Notamment parce que AREA avait une position critique vis-à-vis des institutions et de ce que faisait de l'État. Donc voilà, ce sont des associations qui font le job, qui sont a priori, font partie des lois auxquelles est obligé l'État. Le gouvernement ne met pas en place ce qu'il faut, mais si on critique, on vous coupe les subventions, donc la situation ne risque pas de s'améliorer. Reste en tout cas que la plupart de ces structures dépendent de collectivités territoriales qui, au-delà des contraintes budgétaires qui sont connues, font des choix politiques. Une participante rappelait ainsi au micro que la ville, la métropole, le département et la région ont un point commun. Le Parti Socialiste est à leur tête. Voilà une petite manière d'essayer de secouer le coquetier et de voir s'il en tombe quelque chose. Choix politique, effectivement, toujours plus à droite, visiblement, et en tout cas au niveau européen, c'est complètement acté, puisqu'hier, le Parlement européen, dans le cadre d'une réforme sur les droits et l'immigration en Europe, a adopté une réforme qui ouvre la voie à la création de centres de rétention en dehors de l'Union européenne. On en avait déjà parlé au moment du projet de loi, ça s'appelle des hubs. Ça, c'est en tout cas dans le cadre du règlement sur les retours des migrants qui sont déboutés du droit d'asile que cette réforme a été votée. Elle inclut donc la possibilité pour des pays de l'Union européenne de nouer des accords, hein, chacun avec le pays de son choix, pour installer des centres de rétention donc en dehors des frontières de l'Union, une externalisation donc des camps de rétention. Sous les huées de la gauche, voici qui voyait là une illustration de la convergence entre droite et extrême droite, le texte a donc été adopté par 418 voix pour, 218 contre et 30 abstentions. C'était une séance plénière qui a eu lieu à Strasbourg hier. Le texte était conçu, donc je vous le disais, comme un complément du pacte sur la migration et l'asile. C'est son titre complet. Celui-ci a été adopté en 2024 et il est entré en application en France ce 12 juin 2026. Le but de ce pacte, c'est de renforcer les sanctions et le renvoi des personnes déboutées du droit d'asile, et ce, dans un élan donc qui couvre tous les pays de l'Union européenne. Il prévoit une série de mesures pour notamment accélérer les expulsions et permet donc aux États qui le souhaitent d'installer des centres en dehors de l'Europe pour y renvoyer ces personnes déboutées du droit d'asile qui, on ne sait pas trop ce qu'elles y feront, mais une fois qu'elles seront là-bas, je pense que ça sera moins un problème que ces situations restent souvent inextricables. La possibilité de créer donc ces fameux hubs de retour, des centres de rétention à l'étranger, donc des plateformes de retour, c'est la traduction, pour y renvoyer les migrants en situation irrégulière qui sont refusés par leur pays d'origine. Cette proposition a été soutenue par le gouvernement français d'ailleurs. Mais le texte a quand même finalement vu une partie des partis centristes, y compris dans le camp présidentiel d'ailleurs, se désolidariser de cette version finale. Ils n'assumaient pas trop. Par exemple, l'eurodéputée Fabienne Keller, qui fait partie du groupe Renaissance, dit « Renvoyer des familles avec enfants dans des hubs à l'autre bout du monde, sans garantie de respect des droits humains fondamentaux, c'est franchir une ligne rouge. » D'autres commentaires dans ce sens, plus ou moins acerbes d'ailleurs, ont été émis suite à ce passage. Certains pays comme le Danemark, l'Autriche ou l'Allemagne, eux, sont déjà en train d'imaginer où est-ce qu'ils pourraient installer ces fameux centres. Dans les pays imaginés, on parle par exemple du Rwanda, de l'Ouganda ou de l'Ouzbékistan. L'idée de créer ces hubs de retour, donc sans lien avec le pays d'origine des migrants, n'est pas nouvelle. Hein. Elle a déjà été testée en Italie, avec le gouvernement de Giorgia Meloni, qui a commencé la construction de ces centres en Albanie. Ainsi, les personnes seraient expulsées avant même que leur demande d'asile soit examinée, contrairement à ce que prévoit cette nouvelle loi européenne. Le centre en Albanie, ce qui est de la situation italienne, il est resté longtemps vide, en raison notamment de contestations judiciaires. Il faudra du temps, en tout cas, aux États pour développer de tels projets, s'ils le souhaitent. Il faut qu'ils tombent en accord avec des pays tiers qui les accueilleraient. Et j'imagine qu'il y aura des retombées financières à la clé qui sont non négligeables. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, environ 20% des décisions d'expulsion d'étrangers en situation irrégulière aboutissent réellement à un retour. Et c'est cette statistique qui est mise en avant par les partis notamment d'extrême droite et qui est très critiquée donc, par ceux qui sont partisans d'une ligne migratoire plus ferme.
Je fais « What ?» Mais d'où ça sort, quoi ? D'où ça sort ?
On part maintenant au Royaume-Uni. Royaume-Uni qui a d'ailleurs lui aussi commencé à renvoyer des migrants dans d'autres pays, mais ils font plus partie de l'Union européenne, donc ils font ça tout seuls. Au Royaume-Uni, c'est l'interdiction du groupe Palestine Action qui vient d'être validée en appel. La justice britannique a validé, c'était ce lundi, donc en appel, l'interdiction du groupe Palestine Action. J'imagine que c'est un peu l'équivalent d'une dissolution chez nous. Ils sont interdits et donc ils sont classés comme organisation terroriste. Le classement comme organisation terroriste par le gouvernement donné, c'était en juillet 2025, avait conduit la police à l'époque à arrêter plus de 3000 de ses soutiens. La décision du ministère de l'Intérieur était proportionnée, n'était pas illégale. C'est donc ce qu'a tranché la cour d'appel qui a validé donc cette qualification de terrorisme. La juge Sue Carr a d'ailleurs souligné que l'interdiction de ce groupe pro-palestinien et son classement comme organisation terroriste était hautement controversé, dit-elle. Mais c'est une erreur fondamentale de négliger le fait que Palestine Action promeut une violence illégale qui s'apparente au terrorisme, a-t-elle ajouté, donc pour conforter ses choix. Et dit-elle aussi, et la ministre de l'Intérieur, elle a dit que les actions du groupe Palestine Action n'étaient pas compatibles avec les valeurs démocratiques et l'état de droit suite au jugement. Donc il se félicite de la décision. Du côté de Palestine Action, la cofondatrice du groupe, qui s'appelle Houda Amouri, a annoncé son intention de présenter un recours devant la Cour suprême et, si besoin, même devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'était sous le travailliste Keir Starmer, Premier ministre du gouvernement britannique, que Palestine Action a été classé comme terroriste, au même titre qu'Al-Qaïda, le Hezbollah ou l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, pour ce qui est des terroristes du Royaume-Uni. Ça s'était fait après une action où les militants avaient pris pour cible une base de la Royal Air Force en juin 2025. Ils s'étaient introduits sur place et jeté de la peinture rouge sur des avions. Et ils avaient aussi ciblé l'entreprise d'armement israélienne Elbit Systems en août 2024, deux événements dont je vous avais parlé au micro. Quatre de ces militants qui avaient participé aux actions ont été condamnés le 12 juin à de la prison ferme pour avoir percuté la clôture de l'usine de Bristol de Elbit Systems, et ils avaient réussi à occasionner 1,2 million de livres de dommages. Cette décision judiciaire était donc particulièrement attendue hein, par les centaines de personnes, elles aussi inculpées, pour avoir affiché leur soutien à Palestine Action, puisqu'il y a eu de nombreuses manifestations suite aux arrestations, et donc bah, des gens venaient avec des pancartes en disant qu'ils soutenaient Palestine Action. Par exemple, qui a été interviewé dans cet article, un londonien de 47 ans, Chris Houghton, lui a été inculpé en juillet et en août pour brandir donc cette pancarte où il y avait écrit dessus « Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action ». Il a expliqué aux journalistes « Je suis auteur de livres pour enfants, je ne suis pas un terroriste ». C'était au cours d'une manifestation devant le tribunal. Et il rajoute « Palestine Action est un groupe d'action non violente. Nous sommes contre le génocide, nous essayons de stopper la violence ». Oui, car on revient toujours avec ces histoires de terrorisme sur la notion de violence. Or, la violence contre des biens et la violence contre des personnes, eh bien, elles sont mises sur le même plan, souvent dans ces décisions très très floues de ce qu'est le terrorisme. Pour lui, donc, la décision de la cour d'appel relève tout simplement de l'autoritarisme. Je pourrais désormais aller en prison, explique-t-il. C'est peu probable, mais plus impossible selon la loi. En milieu d'après-midi, ce lundi en tout cas, une soixantaine de personnes avec cette pancarte interdite avaient été arrêtées par la police. Depuis donc, l'interdiction qui a été validée en appel, maintenant toute expression de soutien à Palestine Action est passible de peine allant jusqu'à 6 mois de prison, tandis que l'appartenance au groupe ou l'organisation d'événements de soutien, donc quand on s'engage un peu plus, cela peut carrément, selon la loi, vous valoir jusqu'à 14 ans d'emprisonnement. Pour Tom Southerden, qui est directeur du programme juridique d'Amnesty International Royaume-Uni, cette décision constitue une nouvelle étape dans la répression continue du droit de manifester dans le pays. Au total, plus de 3400 personnes ont été arrêtées, aussi bien des étudiants qu'un pasteur à la retraite âgé de 83 ans, depuis le mois de juillet, puisqu'il y a eu de très nombreuses manifestations de soutien en groupe, selon l'association Defend Our Juries, qui justement organise ces groupes. Donc voilà, je vous rappelle les phrases interdites. Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action.
Y'a de quoi se vendre la gueule, non ?
Allez, on revient en France avec ces chiffres qui viennent de sortir dans les colonnes de Basta, le média indépendant. Ils ont compté pour l'année 2025 49 personnes décédées lors d'interventions de la police, de la gendarmerie ou de la police municipale. Un décompte, donc toujours macabre. Ces décès résultent principalement de tirs par arme à feu de la part des fonctionnaires, mais aussi de poursuites liées à des refus d'obtempérer, avec souvent des collisions, par exemple avec des scooters ou des motos, et aussi des interpellations ou des situations impliquant des personnes en détresse psychique, avec notamment les fameux gestes d'immobilisation qui peuvent parfois vous coûter la vie. Parmi les cas les plus marquants sont rappelés et figurent la mort de Bilal, qui est décédé à Toulouse suite à une intervention de la police municipale, ou celle de Farah Tournier, en Kanaky, donc en Nouvelle-Guinée. C'est un Kanak qui a été tué, lui, par un tir de gendarme. Ces décès, en tout cas, s'inscrivent dans un contexte où plus d'une vingtaine de morts liées à des interventions des forces de l'ordre ont déjà été recensées pour ce qui est des 5 premiers mois de l'année 2026. Donc voilà, 49 pour 2025. Et on est déjà à une vingtaine pour l'année 2026.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
On va parler un peu bah, du climat qui chauffe, de la chaleur et des inondations, en tout cas dans ce rapport, risque d'impacter fortement les futurs data centers, qui sont pourtant porteurs de tout l'espoir de la réindustrialisation du pays, en tout cas d'une partie. On apprend donc que la France figure au 5e rang des pays les plus exposés aux risques climatiques, qui pourrait affecter les futurs data centers. Donc un quart de ces futurs data centers seraient vulnérables aux risques climatiques. C'est en tout cas ce qui ressort de cette étude. Elle a été menée par un cabinet d'analyse des risques climatiques. Le cabinet s'appelle XDI. Alors peut-être que ça veut dire 1501, je ne sais plus trop, mais 41, je crois. J'ai plus très bon en chiffres romains, vous me direz. En tout cas, ce cabinet s'est penché sur 2600 projets de data center à l'échelle mondiale. Et donc, il y a d'autres chiffres que vous pourrez trouver sur ce qui se passe au niveau du monde. Mais sur les 38 projets de centres de data center pour la France qui ont été analysés, 26% sont donc considérés comme à haut risque, et ce, dès cette année, dès avec les conditions actuelles de climat. Le risque des dommages matériels liés aux aléas climatiques devrait être multiplié par plus de 4 en France d'ici la fin du siècle. Ça, c'est pour ce qui est des prévisions de ce cabinet d'études. Les data centers, donc, ce sont des usines à serveurs qui sont nécessaires au fonctionnement de l'intelligence artificielle et dont la construction nécessite des centaines de millions d'euros d'investissement. Ils sont donc particulièrement vulnérables. Ces data centers sont exposés au risque de chaleur extrême ou d'inondations côtières, et toutes celles-ci s'accentuent avec la montée du niveau de la mer et le dérèglement du cycle de l'eau, des inondations avec des pluies violentes notamment. C'est par exemple vrai dans les régions Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France, qui prévoient pour leur part d'accueillir respectivement 6 et 3 de ces méga data centers géants, on les appelle les hyperscale. Au niveau mondial, on peut parler de l'Oklahoma, de la Louisiane, du Kansas, mais aussi de Séoul, de Rio de Janeiro, de Berlin. Partout dans le monde, de nombreux regroupements de centres de données vont se situer et se situent déjà donc dans des territoires qui sont très exposés aux effets du changement climatique. Et puis on rappelle que ces data centers sont très gourmands en eau et en électricité, que ce soit pour faire tourner des machines ou bien pour refroidir tout ça. Ben justement, une autre info liée aux vagues de chaleur nous apprend que, donc toujours en France, EDF envisage de baisser la production de ses centrales nucléaires suite aux vagues de chaleur, notamment les centrales du Bugey, c'est dans le département de l'Ain, et la centrale de Saint-Alban en Isère. En effet, face aux fortes chaleurs, ces restrictions de production électrique vont permettre d'éviter un trop grand réchauffement des eaux du Rhône. Pour la même raison, d'ailleurs, des restrictions de production sont susceptibles d'arriver aussi sur le parc de production à partir du samedi 20 juin, notamment le site de Saint-Alban, je vous le disais, en Isère. Une décision donc pour éviter un trop grand réchauffement des eaux du Rhône. Les réacteurs nucléaires sont pour le moment au nombre de 57 sur le territoire français. Ils ont nécessité d'être refroidis en permanence, hein, et c'est leur principal. C'est d'ailleurs la manière dont ils produisent l'électricité, hein, vous savez que c'est quand même la manière la plus dangereuse de faire bouillir de l'eau. Et ils doivent être refroidis en permanence, ils utilisent donc les eaux des rivières. Alors d'une part, si vous faites un peu de physique, vous comprendrez assez logiquement que si les rivières sont de plus en plus chaudes, elles refroidissent de moins en moins bien les réacteurs, et que l'eau qui est rejetée à la suite, qui est rejetée donc sans toucher les combustibles hein, quand même, normalement c'est bien fait, et bien que l'eau qui ressort est plus chaude, et donc elle affecte ensuite l'état des rivières et des fleuves. Donc en cas de forte chaleur, la hausse de température des rivières peut contraindre EDF à réduire, voire même à arrêter sa production, pour ne pas réchauffer davantage les cours d'eau. Il y a déjà des lois pour encadrer cette activité des centrales nucléaires, avec notamment des seuils d'échauffement des cours d'eau à ne pas dépasser, pour protéger la faune et la flore. Les arrêts ou les restrictions de production pour raisons environnementales ont un effet limité sur la production nucléaire d'EDF jusqu'à présent. On estime la baisse annuelle en moyenne à 0,3% pour l'instant. Mais dans ce contexte de changement climatique, et sans adaptation de la part d'EDF, de la part de nos politiques environnementales, cette réduction pourrait atteindre en moyenne 1,4% d'ici 2035, puis peut-être 1,5% en 2050. D'ailleurs, EDF a annoncé un plan d'adaptation de ses installations nucléaires, hydrauliques et insulaires pour un total de travaux de 8,7 milliards d'euros d'ici 2040. Allez, une petite histoire un peu loufoque qui a été révélée par Mediapart. C'est depuis 4 ans que cette femme âgée de 35 ans aujourd'hui, paye pour des infractions routières commises par son ancienne voiture qu'elle ne conduit plus. C'est en 2019 donc, que cette femme qui s'appelle Jenny est alors en couple avec un homme qui lui offre une Clio pour qu'elle puisse aller bosser. Elle ignore alors que ceci est visé par une enquête pour trafic de stupéfiants. Donc, visiblement, il lui a payé la voiture avec de l'argent sale. La carte grise est bien au nom de la jeune femme, mais pour la justice qui mène l'enquête et qui arrête son compagnon, c'est lui, le réel propriétaire de la voiture, puisque j'imagine que c'est lui qui l'a payée. Donc la voiture est saisie au cours de l'instruction pour l'enquête. Donc, bah, elle a dû rendre la voiture, elle a donné la voiture, la carte grise et les clés au commissariat de Bobigny, explique-t-elle. C'était le 21 janvier 2019. Depuis, elle n'a pas revu sa voiture, ni d'ailleurs son ex. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Eh bien, depuis cette date, donc, la jeune femme commence à recevoir des amendes par la poste. Des amendes, donc, pour des délits commis en voiture. Elle est allée s'en plaindre au commissariat de Bobigny. Pour les premières contraventions, bah, un agent... on va dire bien intentionné, les a fait sauter en disant peut-être qu'il y avait un bug, mais que ça allait se régler. Mais depuis 3 ans, les vagues d'amendes ont repris et sont en augmentation. Elles semblent impossibles à endiguer. Elle en a encaissé déjà plus d'une vingtaine. Une vingtaine donc d'infractions routières commises dans toute l'Île-de-France. Excès de vitesse, stationnement gênant ou pas payé, circulation sur les couloirs de bus. Eh bien tout ça, elle les reçoit dans sa boîte aux lettres. La dernière en date, c'était le 29 mai de cette année, un stationnement gênant en double file, peu avant minuit à Vitry-sur-Seine. La veille, un excès de vitesse dans le 18e à Paris, un mois plus tôt, un autre excès de vitesse sur le périph. À chaque fois, donc 135, 135, 35 euros, on est déjà quasiment à 300 euros. Depuis 7 ans, en fait, ce qui se passe, c'est bien visiblement, c'est que des policiers conduisent cette voiture de manière légitime pour les besoins de leur travail. Et ils ne s'embêtent pas avec le code de la route. Ils peuvent aller se balader dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-d'Oise, divers arrondissements de Paris, enfreignant le code de la route à toute heure du jour et de la nuit. Et donc, vous l'aurez compris, ils n'ont pas changé la carte grise, et c'est donc madame qui reçoit toutes ces amendes. Mediapart a réalisé des calculs avec tous les petits documents qu'elle garde hein, pour essayer de régler son cas. Un montant total d'amende à régler de presque 3000 euros. Mais la somme augmente, comme vous le savez, puisque quand on ne paye pas, il y a des majorations. Cette jeune femme touche le revenu de solidarité active, le RSA, et de toute façon, elle n'a pas beaucoup le choix, donc elle n'a déjà de pas à quoi payer cette dette. Elle n'en a pas très envie, on peut la comprendre. Elle a reçu des courriers de sa banque qui annoncent qu'il va y avoir des saisies sur compte, mais comme elle est au RSA, ça ne passe pas. Mais à chaque fois, ça rajoute des frais qui se rajoutent, hein, des frais bancaires. Donc elle se retrouve maintenant à découvert avec sa banque. Et en plus de tout ça, elle a perdu son permis, puisqu'à chaque infraction, des retraits de points, et maintenant, elle n'a plus de permis de conduire. Voilà, sachant qu'elle est au RSA, mais que si elle trouvait un boulot, dès qu'elle aurait des payes, ça serait saisi directement sur son compte. Alors, elle a sollicité à plusieurs reprises le commissariat de Bobigny. Celui-ci lui a suggéré de contester chaque amende, mais si vous avez déjà essayé de faire ça, vous savez la galère. Et en plus, a priori, il faut avancer la somme. Elle a déposé une main courante, c'était en février 2024, au commissariat à côté de chez elle. Et c'est finalement ce 7 mai qu'elle a fini par déposer plainte pour usurpation d'identité, ce qui était visiblement la meilleure chose à faire, directement auprès du parquet de Bobigny. Celui-ci a été contacté par Mediapart. Il a répondu, hein, contrairement au commissariat et autres personnes impliquées dedans. Et il est, donc le parquet explique qu'il étudie les suites à donner et qu'il essaie d'éclaircir en parallèle la raison pour laquelle la carte grise n'a pas été actualisée depuis le jugement qui date de janvier 2022. Sachant que la jeune femme a tous les papiers signés au commissariat, comme quoi elle remettait bien à son véhicule. Voilà, cette jeune femme donc s'insurge, et d'où le papier dans Mediapart, peut-être ça va aider à résoudre l'affaire. « Je me retrouve à découvert à cause d'eux, dit-elle, alors que je n'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens. » Et elle est toujours aujourd'hui en recherche d'emploi, elle passe des entretiens d'embauche, mais s'inquiète que si elle travaille aujourd'hui, eh bien tout va lui être pris sur sa paye pour des infractions donc qu'elle n'a pas commises.
Oh, c'est quand même bien fait.
Allez, on termine avec une jolie boulette encore signée Donald Trump, qui vient de fêter ses 80 ans avec motocross, lance-flammes et tutti quanti. Il a fait encore des travaux dans la Maison-Blanche, vous savez, il rebétonne des jardins, enfin bon, il saccage un peu tout sa maison présidentielle. Et là, il voulait faire repeindre le bassin réfléchissant, du Lincoln Memorial, qui est au cœur de Washington. Donc pour l'embellir, hein, il le trouvait un peu sale, crasseux. Il y avait en effet quelques algues qui traînaient. Le projet de rénovation, particulièrement coûteux, s'est inscrit dans un vaste plan donc porté par Donald Trump pour embellir la capitale, puisqu'approche le 250e anniversaire des États-Unis. Fin avril, donc, le président américain annonçait des travaux d'une durée d'une semaine pour un budget de moins de 2 millions de dollars pour ce qui était de ce bassin. Finalement, le chantier a duré 6 semaines. Le coût a dépassé les 14 millions de dollars, donc 7 fois plus que prévu. Donc déjà de quoi énerver pas mal les contribuables. Le bassin a donc été finalement entièrement rénové et le fond du bassin a été repeint en bleu drapeau américain, espèce de bleu marine. Et là, on se dit que c'était un peu la boulette. Donc ce bassin, c'est, vous savez, le grand bassin qu'on voit souvent Par exemple, au moment des grands rassemblements, le discours de « I have a dream » de Martin Luther King en 63, les hippies contre la guerre du Vietnam, etc. Un bassin emblématique de la capitale. Il est situé entre le Lincoln Memorial et le Washington Museum, Monument. Pardon. Et dans l'eau, normalement, doit se refléter justement l'obélisque. Aujourd'hui, l'eau y est verdâtre et complètement pas du tout brillante. Et des canetons continuent de barboter là-dedans. En effet, quelques jours seulement après la fin des travaux, les algues ont proliféré sous l'effet des températures élevées. C'est un vrai incubateur, un bel exercice de biologie mis en application. Un petit exemple avec ces touristes qui viennent voir le truc. Hein. Je m'attendais à voir le monument se refléter dans l'eau. C'est quand même le sens du nom, hein, puisque c'est Reflection... comment il s'appelle le truc ? J'ai oublié, Reflection Bassin, je sais plus comment on dit, bref. Bref, les touristes viennent pour ça, et là, ils ont une espèce d'étendue vert opaque. Donc, plutôt grosse déception. Sur place, bah, on envoie des équipes du National Park Service qui s'activent avec leurs petites épuisettes, des aspirateurs aquatiques et des pompes pour tenter d'évacuer l'eau laiteuse. Mais autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de litres d'eau là-dedans. On ne sait pas comment ça va évoluer. Ça change très vite. C'est Pullman à Ranger par-dessus le vrombissement des machines. Ce chantier donc d'environ 14 millions de dollars confié sans appel d'offres à une entreprise ayant déjà travaillé sur un club de golf du président, puisque c'est comme ça qu'il fait les affaires, lui, eh bien, a suscité de vives critiques. Donald Trump, sur son réseau social Truth, assurait début juin que les matériaux utilisés pouvaient durer 100 ans. Alors, les matériaux, certes, mais après, pour ce qui est de la réalité écologique, environnementale, vu qu'il coupe bah, dans tous les fonds scientifiques et tout ce qui œuvre justement là-dessus, et qu'il est un beau... climato-sceptique, en tout cas, il dénie la part des activités humaines, ben on voit qu'il n'y connaît pas grand-chose, ni en biologie, ni en physique, donc un bel exemple d'écologie appliquée, une fois de plus, pour montrer un petit peu l'absurdité de ce qui se passe dans leur pays.
L'air pur, l'eau pure et une terre saine, ces trois choses n'en ont plus une seule. Voilà, et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
Et voilà les amis, on se quitte pour aujourd'hui, pour ces nouvelles du monde. Bonne continuation, bon week-end, peut-être faites de la musique, et en tout cas, bah, profitez un peu de la chaleur pour aller vous mettre les pieds dans l'eau. Allez, on repart en musique, juste après le générique.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué... Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.